Bonjour, merci à tous d'être venus nous voir en ce milieu d'après-midi. Si quelqu'un avait une hache pour le pied, ça nous arrangerait pour commencer les débats. On va parler de Lovecraft cet après-midi avec quatre spécialistes autour de la table. Avec tout d'abord, juste à mes côtés, Christophe Thiel. Christophe Thiel, il co-dirige la maison d'édition MacArthur. Il a tout un tas de casquettes, hein, MacArthur, vous avez un stand là-bas. Et grand connaisseur de Lovecraft, on lui doit notamment plusieurs articles dans un livre qui s'appelle Au cœur du cauchemar, une monographie sur Lovecraft qui vient de sortir aux éditions QSF et qui est vivement recommandable. À ses côtés, Gilles Menegado. Alors, j'ai découvert que vous avez fait une thèse sur la guerre à Allan Poe. Peut-être qu'on en parlera dans... Voilà, et vous avez dirigé un ouvrage sur Lovecraft en 2002, Fantastique, mythe et modernité, avec... notamment des articles sur les influences d'Abraham Mérite. Là aussi, on parlera peut-être des influences. À ses côtés, Nicolas Fructus. Nicolas, illustrateur, grand connaisseur de Lovecraft également. Vous avez pu découvrir sans doute Gotland aux éditions du Bélial. Vous avez juste avant, évidemment, acheté Kadat aux éditions Nemos. Et puis, en plus, vous pouvez lire son interview dans Au cœur du cauchemar. Donc, la monographie chez QSF. Et puis, le dernier compère de cette table ronde, Laurie Quillot, qui notamment a fait une approche généalogique de l'horreur consacrée sur Lovecraft. Enfin, ça m'intéresse particulièrement que vous nous expliquiez un petit peu tout ça tout à l'heure. Alors, Lovecraft, c'est quand même un sujet sur lequel on pourrait passer à peu près deux jours sans s'ennuyer. Hein. Donc, imaginez, là, on a une heure, si on compte un peu les questions, on va quand même aller assez vite. Peut-être qu'on va s'intéresser à l'homme un peu plus sur cette table ronde, et puis on dérivera au fur et à mesure sur toute l'œuvre. Hein, toute l'œuvre, enfin une partie, du moins. Oui, j'ai.
C'est actuellement une sorte de figure iconique, que donc il est scène dans toute la culture. Médiatique, intermédiaire, c'est-à-dire, bon, ça a commencé par le cinéma, mais la bande dessinée, les jeux de rôle, les jeux vidéo, etc. Enfin, c'est aussi cette dimension-là, dans son illustration, évidemment, magistralement illustré, justement, Nicolas et quelques autres, donc des réécritures littéraires, des réécritures tous azimuts, en quelque sorte, mais aussi, aussi des termes qui sont, voilà, à la limite, parfois le support de pensées philosophiques. Enfin, il y a des choses très. Bon, il y a un retour de l'ésotérisme aussi autour de Lovecraft. Donc on revient un petit peu aussi à des malentendus peut-être à certains égards qu'on a connus au moment où Lovecraft a été découvert en France, par exemple dans les années 60, par les surréalistes, etc. Voilà, c'est pour dire que c'est peut-être un aspect dont il faudra peut-être...
Oui, parce que c'est vraiment l'univers étendu de Lovecraft qui est passionnant, parce qu'on peut encore gratter et gratter. On va peut-être commencer simplement par les influences littéraires, puisque je vous tiens. on parle d'Edgar Allan Poe et d'Abraham Mérite. Moi, cet article sur Abraham Mérite, parce que
Abraham Mérite, c'est pas moi qui l'ai créé celui-là, moi je peux vous parler de plusieurs influences, ouais. Après quelqu'un complétera le.
Bien sûr, mais notamment Christophe.
Oui, donc je pense que, comme le dit Lovecraft, son maître à écrire, hein, God of Writing, c'est Edgar Allan Poe, et une partie de son œuvre, effectivement, dans les premiers textes en particulier, sont largement influencés par Poe. Je citais par exemple, je suis d'ailleurs des outsiders, donc qui évoque le masque d'amour rouge, entre autres choses. On peut dire aussi que les montagnes hallucinées, donc un des grands textes, ou les montagnes de la folie dont on a reparlé, est une sorte de prolongation d'un texte de Poe qui est bien connu d'un roman de Poe, des aventures d'Arthur Gordon Pym, tout en étant aussi associé au sphinx des glaces de Verne. On a une sorte de filiation Poe-Verne, passionnant. Donc Poe, c'est quelque chose. Mais alors la différence avec Poe, qui était déjà une sorte de, qui n'était pas un gothique extérieur, comme il disait lui-même, un gothique de l'âme, donc une intériorisation du gothique, où l'homme est quand même encore à la mesure de toute chose en quelque sorte chez Poe, et c'est ce qui finalement va amener Lovecraft à évoluer vers une autre conception, et c'est là qu'il va développer sa fameuse mythologie dont on va sûrement parler, des grands textes, disons, des années. Depuis la peine de Cthulhu jusqu'à 1936, mon texte comme un bon compte tenu du temps, The Shadow of Time, où là, véritablement, on a une sorte de changement de paradigme, en quelque sorte. Ce n'est plus l'individu qui est au cœur de la création, il n'est qu'un élément inventé par hasard, par des êtres, des entités plus puissantes que nous. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu pourquoi, à un moment donné, tout en gardant toujours une certaine sensibilité Poesque, que Lovecraft va se détacher du modèle Poesque et emprunter d'autres modèles. L'autre grande influence des premiers textes, c'est Lord Anselmi, qui est beaucoup moins connu, qui était un lord, donc qui représentait aussi sur le plan, disons, idéologique, sociologique, etc., une sorte d'idéal pour Lovecraft, donc une sorte de gentleman, qui pouvait justement vivre, qui n'avait pas besoin de vivre de sa plume, donc qui n'avait pas besoin de sacrifier, disons, au contexte de la publication des pulp magazines comme Vertes, où on sait que Lovecraft n'a jamais été publié réellement, sauf une nouvelle vers la fin de sa vie. Donc il a fallu attendre ses exécuteurs testamentaires, notamment Auguste Derleth, qui ont créé la maison d'édition Arkham House pour que ça devienne un roman. Contrat d'Anselmi, lui, a pu faire ce qu'il voulait, il n'a jamais eu à se soucier des problèmes d'argent. Et puis sur le plan du système de pensée aussi, Anselmi, c'est quelqu'un qui effectivement a une posture un peu indifférentiste par rapport à l'individu qui est créé. C'est presque borgésien, hein, c'est-à-dire que l'homme est le produit de la création, pour être très bien rêvé, un être rêvé. Et donc la grande influence d'Anselmi porte justement sur cette invention de vie imaginaire, de vie d'un rêve, l'importance du rêve. Et puis la création d'une mythologie où les dieux, justement, sont des dieux un peu fragiles, parfois impuissants, mais qui sont à l'origine des hommes. Voilà, on peut aller très très vite. Et puis, bon, il faut quand même noter une dernière grande influence, mais pour beaucoup d'autres, puisque Lovecraft a écrit un essai qui s'appelle Supernatural Agriculture, donc une sorte de. Où il fait il commente assez précisément tous les écrivains qui ont une importance pour lui. Dans la littérature fantastique, notamment, au sens large, qu'il appelle le weird fiction. Et donc, l'autre grand écrivain de cette période, qui soit, par exemple, à peu près de la même période, de la fin de siècle, c'est Arthur Machen. Arthur Machen, qui est un auteur gallois, beaucoup moins connu, évidemment, qu'Edgar Poe, mais qui a créé aussi, qui a pu l'inspirer pour la dimension un peu ésotériste, occultiste de la France. Il a eu lui-même une culture ésotériste, il avait parti pendant un moment donné d'une société secrète de Gordon Dawn, l'aube dorée, et aussi l'un de ses thèmes, c'est à la fois le retour des dieux païens, qu'on retrouve dans de nombreux textes de Lovecraft, et en même temps le darwinisme à l'envers, c'est-à-dire la possibilité de dégénérescence de l'humain, de l'involution de l'humain. Je vais vous parler, en gros, voilà. Après, il y en a d'autres aussi qui.
Christophe, quelques exemples de textes où on retrouve véritablement cette influence, par exemple de Poe ou de Kinsella.
L'influence de Poe, c'est très simple. Moi, j'ai été frappé quand j'ai commencé à lire, après avoir lu Lovecraft en version originale en anglais, quand j'ai commencé à lire Poe en version originale, la parenté dans le style, en particulier dans les premières nouvelles de Lovecraft, est extrêmement frappante. En particulier, il y a un texte que Lovecraft a écrit quand il était très jeune, qui s'appelle « La bête dans la caverne ». C'est l'histoire d'un type qui se perd dans des cavernes, qui perd son groupe et son guide, et puis qui sent une présence, qui se sent attaqué par une présence, et il réussit à terrasser cet être mystérieux, et il finit par se rendre compte que c'est un homme, sans doute un homme comme lui, qui s'était perdu des années auparavant, et qui était devenu une espèce de créature dégénérée. Et là, c'est complètement poesque, y compris la fin, à grand renfort de majuscules italiques et multiples points d'exclamation, pour signaler que l'être en question avait été un homme. Voilà, donc l'influence d'Edgar Poe, elle est. Alors effectivement, comme disait M. Manigallo, on peut la suivre jusqu'aux montagnes hallucinées à travers la persistance de certains thèmes. Mais l'influence, justement, moi j'ai envie de dire que c'est le fait d'avoir découvert Lord Anselmi, vers 1918-19, qui lui a permis de se détacher de cette trop grande fidélité par rapport à Edgar Poe, qui considérait vraiment comme son père spirituel en littérature à l'origine. Et de loucher sur un style complètement différent, beaucoup plus aisé, beaucoup plus ample, beaucoup plus fleuri, avec une beaucoup moins grande préoccupation du macabre visuel, de la décomposition, de toutes ces choses dont il dira plus tard dans Épouvante et surnaturel en littérature, que c'est normal qu'elle nous fasse horreur, mais que si on se limite à ça, on ne va pas très très loin dans la conception de la nouvelle d'horreur. Donc Anselmi lui a permis, en essayant de le copier, lui a permis de se détacher de l'influence de Poe. Alors évidemment, il a fallu qu'il se détache aussi plus tard de l'influence de Anselmi. À un moment, il se plaint. Il y a mes textes à la Poe et mes textes à la Anselmi, mais où sont mes textes à la Lovecraft? Il a fini quand même par en faire, heureusement. Alors les textes de Anselmi, c'est toute la période des années 1920, avec des choses comme Polaris, qui, ironiquement, il n'avait pas encore découvert Panzani quand il a commencé à l'imiter, c'est un peu amusant. Et puis toute la série de ce qu'on appelait, un peu abusivement à mon avis, le cycle des contrées du rêve, avec des choses comme La Malédiction de Sarnac, Les Chats d'Oukar, etc., qui sont en fait un cycle du monde ancien.
J'ai juste une question bête, pourquoi on dit, on a découvert Panzani en 1918, 1918, ce qui est assez tardif et ce qui est juste avant les grands textes en fait.
En fait, l'histoire, c'est que Lovecraft écrit une nouvelle suite à un rêve, une nouvelle qui s'appelle Polaris et qui parle d'une ville assiégée, suite à une vision qu'il a eue dans un rêve. Et puis, pas longtemps après, on lui prête un livre de Dunsany, et là, il est complètement frappé, d'une part, par la beauté du livre, d'autre part, par le rapport avec cette première nouvelle qu'il a écrite sans le savoir. Et puis ensuite, Dunsany vient à Boston, et Lovecraft va assister à cette conférence. Il en est émerveillé. Et puis, il raconte dans une lettre qu'il s'en va sans aller lui dire bonjour, sans aller demander d'autographe, parce qu'il n'aime pas faire le fanboy quoi, devant les grands. Et plus tard, on retrouve cette influence.
Alors, je
vais la réponse, c'est oui, mais quelle est la question?
Je vais répondre encore la réponse. Puisqu'on a commencé à parler des textes, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre ouvrage. Vous avez fait une approche généalogique. Alors,
oui,
quelle était l'intention derrière, comment vous avez procédé?
Pas si simple. De toute façon, je m'intéresse à toutes les généalogies. Je me rends compte que maintenant, après avoir étudié pendant, je ne sais pas combien de temps, pas mal de décennies de littérature de l'imaginaire, je ne peux pas résister à une approche généalogique. J'aime bien toujours savoir comment les choses s'articulent. Voilà, donc je me suis attaqué à pas mal de genres. Avec Gilles, on s'intéressait beaucoup au gothique, et là j'avais fait une généalogie du gothique. Bon, là je me suis. Lovecraft m'avait beaucoup frappé étant plus jeune. J'ai décidé, grâce aux nouvelles traductions, il faudrait qu'on en parle, parce que je pense qu'elles sont pour beaucoup dans le renouveau Lovecraftien actuel, en France évidemment, mais. Ça m'intéressait de voir comment, d'ailleurs c'est pas simplement le cas de Lovecraft, c'est le cas des grands écrivains, parce que pour moi c'est un grand écrivain, c'est de voir en fin de compte comment il se place par rapport à tout ce qui l'a précédé. C'est-à-dire, le problème d'un départ c'était tout simplement d'où crée-t-on ? Est-ce qu'on peut créer à partir de rien ? La réponse est non, évidemment. On ne peut rien créer ex nihilo, même si on fait à l'œuvre originale, fatalement, on est obligé de revenir à l'origine. C'est-à-dire l'origine, tous les prédécesseurs. Mais Lovecraft était tellement génial qu'il a même réussi à influencer ses prédécesseurs. Merci pour voir s'il y en a qui dorment. J'en étais presque là à ma conclusion. Tellement il y avait une rigueur, une cohérence dans cette espèce d'écheveau qui monte, qui descend jusqu'à Lovecraft. On a parlé de Poe, je suis même allé au-delà. Vous avez des thèmes qui ont été traités. Mais c'était. Là, on a parlé des plus grands, mais il y avait aussi des auteurs qui sont un peu moins
connus. Il y a William Hodgson, dont on n'a pas parlé, La chose dans les algues, Carnac.
Oui, alors Hodgson, on pourrait rester.
C'est un grand auteur aussi.
On pourrait rester aussi pas mal de temps pour parler de Hodgson, qui est un des plus grands fantastiqueurs encore méconnus malheureusement, et qui à un certain moment, notamment avec les pirates fantômes, La chose dans les algues, beaucoup frappé Lovecraft. Mais sinon, donc, j'essayais de voir en fin de compte comment on arriverait d'une certaine façon à créer un univers cohérent sans dire ses sources, mais il est dit aussi dans l'ouvrage que tu as cité, évidemment, c'est ça qui est extraordinaire avec Lovecraft, c'est qu'il rend hommage, en fin de compte, constamment, soit directement, soit indirectement, à tous ceux qui l'ont précédé. C'est un esprit érudit, il faut le préciser, c'est un type qui a tout lu. Et là, c'est un point commun avec Poe. Poe était d'une érudition invraisemblable, il maîtrisait plusieurs langues, il maîtrisait plusieurs cultures, il avait pratiquement tout lu à 30 ans. C'est un peu aussi le cas de Lovecraft. C'est un auteur attrape-tout, pour parler familièrement. et il réussit une certaine forme d'alchimie en distillant d'une certaine façon toutes ses lectures d'enfance ou ses lectures récentes. Et là, il crée, une fois encore, quelque chose de très original à partir tout de même d'auteurs qui ont compté. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que Blackwood soit un gigantesque auteur de fantastique. Et pourtant, c'est un auteur qui va le marquer.
Est-ce qu'il s'inscrit dans l'histoire littéraire américaine? Est-ce qu'il s'inscrit dans son temps? On a un article dans cette monographie qui en parle, notamment sur la déconstruction des villes. Dites-nous un mot là-dessus. Alors, je ne sais pas qui veut répondre.
Par rapport à l'article sur l'espace-temps, c'est ça? Bon, là, je crois qu'il ne s'agit pas de polémiquer, c'est parce que je veux dire, je ne pense pas que Buzz Passos et Lovecraft soient tout à fait sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, par rapport à la représentation du monde moderne. Bon, je pense qu'il y a effectivement des points de contact, et les créatures de Buzz Passos sont radicalement différentes de celles de Lovecraft. Après, c'est intéressant de comparer les Buzz Passos et Lovecraft. Par contre, on peut dire que, comme on a pu dire de Poe, c'était un écrivain plutôt européen et qui ne se souciait pas trop des États-Unis finalement, qui voulait le faire le fuir. On peut dire que Lovecraft est quand même un écrivain foncièrement américain à différents niveaux, même si il se rêve en gentleman anglais du XVIIIe siècle, dont son écriture parfois emporte une trace, à la fois sur le plan stylistique, mais aussi même dans la calligraphie qu'il utilise, etc. Et dans ses modèles littéraires, on sait qu'il aimait beaucoup Edison Steele, par exemple, dans le Gentleman's Magazine, ou des choses comme ça. Il se figure lui-même avec une porte en perruque. Enfin bon, donc il y a cette posture, en quelque sorte, un petit peu fantasmée, de gentleman britannique, de Providence Plantation, comme il le dit. Pour lui, la Première Guerre mondiale est une catastrophe parce que les Anglais n'auraient jamais dû combattre les Allemands. Aussi, on en trouve des traces dans Wagon d'ailleurs, dans le temps, qui est un autre texte précoce. Et puis, bon, il ne faut pas oublier son influence, l'influence philosophique majeure. Alors, on a parlé de son nietzschéisme, ça paraît, ça pourrait être un autre débat, mais il a été très marqué par Oswald Spengler, dans cette idée de décadence des civilisations, du caractère cyclique aussi. Donc, ça, c'est marquant. Mais sur le plan, ce qu'on peut dire quand même clairement, il le dit beaucoup dans la correspondance, c'est quelqu'un qui est un anti-moderniste sur les plans stylistiques. C'est pas quelqu'un qui va remettre en cause la langue, enfin, remettre en cause les grands critères littéraires, stylistiques, formels, structurels, etc., comme le font des modernistes comme T.S. Eliot, par exemple, en Angleterre, ou des gens comme William Faulkner d'une autre manière. Donc s'il y a une réflexivité chez Lovecraft, elle n'est pas du même ordre que celle des modernistes. C'est pour ça qu'à mon avis, Buzz Passos n'est pas forcément le meilleur choix pour reprendre les mots. Mais c'est vrai que par contre, une américanité, c'est absolument évident, une américanité puritaine, dont on a parlé de Rick, effectivement, donc là, ce rapport, l'influence du puritanisme est quand même majeure, on la trouve dans le cas de Charles Savoy notamment. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui connaît bien la littérature américaine qui passait, mais qui donc tout le monde utilise le hommage aussi.
De toute façon, ce que vous dites est tellement au-delà de ce que j'ai pu synthétiser ou lire ou connaître. Mais par contre, sur l'américanisme de Lovecraft, je dirais juste que par rapport à son travail, ce qui transparaît visuellement, c'est que ça reste très américain. Par contre, en dehors de ce qu'il a pu dire, faire, ou, malgré tout, ce sont quand même ce sont des annonces américaines, quoi, beaucoup de nouvelles américaines. Et c'est la civilisation et la culture américaine derrière. Même si de temps en temps il y a un sous-marin avec des Prussiens, malgré tout ça reste très américain. Hein. Ça, j'arrive pas à détacher ça de très loin.
Il y a le rapport avec l'Angleterre, disons, je pense, du XVIIIe siècle, les États-Unis, pardon, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire toute la Providence, finalement, tout ça nous envoie, c'est le texte d'église, etc. Bon, toi, tu les tires. Le style géorgien, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la modernité du l'orchestre de quelque chose qu'il va détester au cours de son séjour. Au début, il est ébloui par ce caractère architectural, pardon. Et ensuite, il découvre, bien sûr, les bas-fonds du Nord. Il découvre tout ce qu'il décrit dans Horror à un Red Book, par exemple, c'est-à-dire la présence des immigrés, etc. Et là, bien sûr, il y a, dans certains cas, des choses un peu délirantes, on le sait. Même si on va faire un contrepoint, il a quand même à un moment donné épousé une femme juive un peu plus âgée que lui. Il a vécu avec elle quelques années avant de se séparer d'elle, bien le sens. Donc je veux dire, c'est compliqué, on ne peut pas réduire à Lovecraft en disant il y a évidemment des propos qui sont antisémites, mais il épouse une juive. Il a des amis juifs également. En même temps, effectivement, pour lui, la culture juive est une culture entre guillemets dangereuse, etc. Donc, comme c'est quelqu'un qui est partisan de l'ordre, qui maintient une sorte de pérennité, de continuité, etc., tout ce qui vient d'ailleurs, en quelque sorte, pose problème à certains égards. Mais là aussi, il y a une évolution à voir dans ces années.
Alors, vaste sujet, hein, parce que. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur américain ? Déjà, rien que ça. Personnellement, je fais un distinguo entre américain et états-unien. Par exemple, Poe est sans doute le plus grand écrivain américain, mais il n'est pas du tout états-unien. Je veux dire par là qu'il ne se reconnaît absolument pas dans la République, par exemple, les institutions démocratiques, et sa vision est celle d'un sudiste. Alors, certes, Lovecraft n'est pas un sudiste, mais sa vision du monde, en fin de compte, et c'est pour ça qu'il est très proche de Poe, philosophiquement, idéologiquement, je dirais. Parce qu'en fin de compte, c'est une conception hiérarchique. Toute la vision lovecraftienne est celle d'un sudiste qui contemple le monde à partir d'une position élevée. Alors évidemment, après, dans cette verticalité, il reste à voir qui est en haut et qui est en bas. Et c'est là effet où on peut parler d'indifférentisme, et là, évidemment, quand on sait la place de l'homme chez Lovecraft, tout en bas, alors que les dieux, au contraire, sont tout en haut, enfin, les dieux, il faudrait voir aussi ce qu'on appelle. En tout cas, il est américain, j'ai commis là, dans Europe, le dernier numéro d'Europe, un article justement essayant de démontrer qu'il était typiquement américain, parce qu'il en a toutes les contradictions. C'est-à-dire, on trouve chez lui, d'ailleurs, on voit bien son évolution politique, hein. On lui trouve toutes les contradictions. C'est quelqu'un qui, c'est pour ça que j'utilise le terme alchimie, il y a un creuset où il, d'une certaine façon, il laisse infuser à peu près toutes les idéologies, les contre-idéologies, etc. Bon, c'est ça qui me fascine, je suis américaniste, hein. Ce qui me fascine dans la culture américaine, plutôt que la culture états-unienne, c'est justement comment on peut passer du puritanisme, on va bien dire un mot, hein, c'est-à-dire des calvinistes qui ont créé l'Amérique, hein, faut pas l'oublier, et puis on passe au XVIIIe siècle avec les Lumières, etc. Les Américains sont les héritiers de siècles de contradictions idéologiques, et ça c'est formidable pour ceux qui étudient la littérature, notamment de l'imaginaire, le fantastique et le gothique notamment, avec là aussi toutes les contradictions. Alors voilà, pour moi c'est un grand auteur américain, mais en même temps il est universel, parce que les grands auteurs américains sont tous universels. Poe, en fin de compte, il a très peu de nouvelles qui se déroulent sur le sol américain, mais d'une certaine façon on peut lui trouver à peu près toutes les grandes tendances de l'imaginaire américain.
Je voudrais qu'on rentre peut-être un petit peu plus dans l'œuvre, et puis alors j'ai une question ouverte, on va commencer par Christophe et ensuite Nicolas. Qu'est-ce qui fait la force de l'œuvre de Lovecraft, de ses écrits?
La force de l'œuvre de Lovecraft, c'est une force que bien des lecteurs peuvent interpréter chacun à leur façon, ou à sentir chacun à leur façon. En ce qui me concerne personnellement, la force des écrits de Lovecraft, elle se trouve d'abord dans l'atmosphère, dans la manière de construire, de tisser une atmosphère, d'emmener son lecteur à la découverte de lieux cachés, mystérieux, où la seule évocation architecturale suggère déjà toute une ambiance. Et puis, il y a également des idées qui sont quand même alors un petit peu moins révolutionnaires pour nous maintenant, parce qu'on a vécu, lu et vu beaucoup de choses, mais qui en tout cas pour la littérature de son époque sont révolutionnaires en termes de fantastique, c'est-à-dire cette manière de passer par-dessus les anciennes conceptions qui étaient à base de monstruosité, à base de macabre à la peau ou à base de démonologie, et de faire venir l'horreur d'un ailleurs qui est tout à fait rationnel, qui n'est pas un au-delà, mais qui est plus de l'ordre d'autres planètes, d'autres dimensions, donc en quelque sorte des choses extraterrestres. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez frappant, avec cette manière en plus de miser des allusions de type scientifique. de créer des liens entre ce qui était considéré par nos ancêtres, par les puritains ignorants comme de la magie et de la sorcellerie, et qui s'avère n'être que des mathématiques et de la physique.
Oui, vaste question. Je trouve qu'il y a déjà plusieurs corpus visuels chez Lovecraft, dont il y a tous ceux d'horreur que l'on connaît sur les nouvelles, tout ça. Il y a la partie plus poétique avec les grands textes, où là il y a une autre façon même de traiter d'un point de vue littéraire, c'est pas seulement dans le volume, mais aussi dans la patine, l'approche, le tout, on est vraiment plus dans la poésie. Et puis le thème transversal du mythe, qui va venir, donc pas systématiquement sur toutes les nouvelles évidemment, mais qu'on va retrouver à la fois dans des nouvelles, donc dans les grands textes, et qui met encore une autre patine sur tout ça, qui fait que c'est ni vraiment de l'horreur, ni juste un récit fantastique, il appartient au mythe. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a toujours ces trois composantes chez Lovecraft, et qui font que bien souvent, visuellement, on a tendance à le représenter dans tous les dérivés de Lovecraft, et tout au travers de l'horreur, ou du monstre, et de tout ça. Alors, il y a des dimensions poétiques dans le monstre aussi, et il y a la dimension de son mythe aussi, qui vient donner encore une autre vision même du monstre. Donc il y a tout ça se mélange, et c'est finalement ça, Lovecraft, c'est une sorte de synthèse, cette synthèse-là, qui se synthétise rarement sur un seul texte, hein, je trouve ça se dissémine un peu partout dans son œuvre, mais je trouve que c'est ce qui transpire au final les lectures que l'on a pu faire. Parce que moi, quand j'entends si souvent le discours sur oui, mais Lovecraft est beaucoup dans l'évocation, non, il n'est pas du tout dans l'évocation, il est quand même plutôt descriptif en fait. Mais par contre, dans sa description, il implique le fait que l'être humain n'est pas susceptible de se représenter la chose. Et là, on arrive à autre chose. Et c'est que il décrit la mécanique qui fait qu'à un moment, l'être humain n'est même plus capable de se représenter. Et oui, mais il faut le dire pour pouvoir établir ce fait. Et en fait, je trouve qu'il décrit les choses. Alors souvent, là, on peut revenir aux histoires des traductions et tout, mais le problème des traductions et de la façon dont ça a été approché aussi fait que on s'en trouve avec pas mal de contresens, voire d'erreurs dans les textes aussi, qui font que on a ces déroutés même à l'intérieur des cultures de Lovecraft, et que par les retraductions, on s'aperçoit que les choses sont finalement assez fluides, assez logiques, assez cohérentes, et assez écrites. Et que les termes de cyclopéen, même sur le chilantine, tout ça, on a l'impression d'entendre ressasser page après page chez Lovecraft. Il n'y a pas que ça, et son vocabulaire est très riche.
Je crois que un bon écrivain, c'est le style. Je veux dire, et c'est ce qu'on lui reproche en général. Je veux dire, parce que connaissant bien l'Amérique, j'ai discuté pas mal avec des universitaires américains, ils détestent pas en général. Ils ne veulent pas admettre que c'est leur plus grand écrivain, parce qu'ils détestent le style. Le style est un petit peu, comment dire, suranné, un petit peu archaïque. C'est justement l'archaïque qui fait la force des grands écrivains américains. Et c'est pas un hasard si Lovecraft est l'héritier stylistique de Poe. Ce qu'on appelle un style superlativiste, c'est toujours le plus, etc. Et puis, ce que tu as dit, c'est important, le fait d'être incapable de représenter la chose, l'irreprésentable. Ça, c'est tout de même une grande tendance chez Lovecraft, qui pose aussi un problème vis-à-vis de l'image, de la représentation picturale. C'est peut-être pour ça que le cinéma a un gros problème avec Lovecraft. Mais je crois que c'est très important de dire que ce qu'on déteste chez un auteur, c'est ce qui fait sa force. Ce qu'on déteste chez beaucoup de grands écrivains, notamment dans l'horreur, dans le gothique, dans le fantastique, c'est justement ce qui fait leur force. Et ça, Lovecraft est le grand héritier de ces, comment dire, de ce style, hein, qui évidemment indispose le lecteur traditionnel, ou indispose les gens qui n'aiment pas tout simplement ce type de littérature qui force le trait, hein, toujours, et qui est destiné, enfin, pour provoquer la peur. Alors, je voudrais juste rappeler une phrase. La grande tradition de la littérature américaine, c'est la peur, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs tout de suite dans son texte le plus fameux. Hein, bref.
Une notion la plus importante,
voilà,
c'est la peur.
Voilà. On voit toujours toujours que l'Amérique, c'est le rose bonbon. Il suffit de voir les dernières élections pour voir que ce n'est pas du tout le cas. Non, mais très sérieusement, c'est ça la force de l'Amérique, c'est d'essayer de concilier des tendances qui sont totalement contradictoires. C'est un puritain, la France. C'est le grand héritier stylistique des textes puritains du XVIIe siècle. Là, il y a un auteur, malheureusement, qui est inconnu en France, qui s'appelle Inge Bretson, qui, il y a une quinzaine d'années, a fait des études sur Lovecraft qui n'ont jamais été traduites en français, qui a très bien montré qu'en fin de compte, tout le style poétique, parce que c'est de la poésie de Lovecraft, il est héritier, curieusement, des grands textes calvinistes. Ah oui, c'est aussi de la littérature, la théologie, on l'a oublié. Voilà, je me tais. J'y vais.
Oui, bon, mais Loric, j'étais tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas, bien sûr, et ce que vient de dire Loric sur la question du style. Bon, je reviendrai sur le style aussi, mais il me semble quand même ce qui est frappant chez Lovecraft, c'est fait partie de ce. Peut-être dont on parle finalement beaucoup du panthéon, du mythe du lieu, etc., bon, une sorte de tarte à la crème. Mais ce que vous commencez à noter, c'est que Lovecraft définit une géographie imaginaire qui double la géographie réelle, c'est-à-dire la ville d'Arkham, par exemple, qui double la ville de Providence, c'est-à-dire qu'il reconstitue des villes imaginaires avec des caractéristiques des villes réelles, qu'il connaît très bien, ou des paysages, ou des architectures réelles qu'il connaît très bien, mais en les investissant d'un insolite, d'une inquiétante étrangeté, du sens de la terreur, etc. C'est-à-dire que là où il y aura une cave habituelle, entre guillemets, avec plein d'étoiles d'araignée, il y a une sorte de figure vampirique qui pour lui quelque part est absolument ça. Quand quelque chose se tombe du ciel dans un puits, ça n'est pas une météorite normale, c'est une météorite en fait qui cache une espèce de blob qui là aussi fait se déformer, d'abord fait pourrir les fruits, les légumes, ensuite fait que les aliments se métamorphosent, etc. Autrement dit, il y a toujours qui ajoute quelque chose de plus. Bon, je ne reviendrai pas sur la question des divinités, mais ce que je voulais noter, c'est justement cette espèce de porosité des frontières qu'il y a entre le monde onirique, le monde réel, entre la science-fiction, le fantastique, etc. Parce qu'on retrouve finalement des dieux qui sont des dieux dans le monde onirique, ne sont pas les mêmes que les mêmes dieux, les mêmes entités dans le monde réel. Et celles-là même sont à la fois perçues comme des monstres épouvantables devant certains textes, et horrifiques, ou au contraire comme des entités supérieures à l'homme, mais qui, d'une certaine manière, font de l'homme un être totalement méprisable, un simple jouet, un simple pantin. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que Lovecraft, on a du mal avec les adaptations cinématographiques, parce qu'il n'y a pas de véritable héros lovecraftien, il y a peu d'action, comme disait Christophe Cessy. C'est bien, c'est une question d'atmosphère, effectivement. C'est une histoire d'atmosphère. Et donc, forcément, l'action passe un peu sur le plan. Même s'il y a des textes comme l'ombre, le cauchemar de Scott, par exemple, il y a des passages quand même d'action. En tout cas, cette idée de porosité des frontières entre les différents mondes fait aussi que cet univers des gens n'est pas un univers cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est son incohérence relative. C'est ça qui était le producteur d'inquiétantes étrangetés, de fantastique, etc. Alors, par ailleurs, ça rejoint aussi un découpage générique, en quelque sorte, et ça a provoqué beaucoup de polémiques dans les années 60-70 et encore. Est-ce que Lovecraft, c'est un écrivain d'horreur ou de terreur? Est-ce que c'est un écrivain macabre? C'est un écrivain merveilleux? Est-ce que c'est un écrivain utopiste ou dystopiste, etc. Donc, on a tous ces aspects-là. Et on peut dire, par exemple, que les Montagnes hallucinées, c'est à la fois une sorte de description dystopique d'une société à certains égards antérieurs à l'homme, mais qui peut aussi être postérieur à l'homme, parce que l'idée de Lovecraft, c'est justement qu'il y a aussi un problème au niveau de la temporalité, il y a une sorte de porosité aussi au niveau de la temporalité, pas simplement de la spatialité. Donc on a à la fois des textes conjecturaux, effectivement, de caractère utopique et dystopique, mais en même temps avec des éléments horrifiques, avec des éléments de l'époque, etc., et une poésie, on parlait très très bien, Nicolas.
Le temps file, et on dit beaucoup de choses. Et il y a encore plein d'aspects à aborder. Je voudrais qu'on s'arrête peut-être 5 minutes, on l'a évoqué sur la traduction. Alors, on dit souvent qu'elle a été mal servie, mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois entre François Bayon et Albert Camus des traducteurs de qualité qui se mettent et des différences. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur la traduction, Christophe?
Oui, l'histoire de la traduction de Lovecraft en France, elle est compliquée, et je pense qu'elle porte les traces de l'histoire de la traduction en général. Avec des défauts, si on peut, je permets de juger les gens à posteriori, mais les défauts qu'on peut attribuer en quelque sorte à l'habitus de traducteur dans les années 50 et aux caractéristiques du monde de l'édition qui aboutissaient à vouloir améliorer et raccourcir un texte, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des marques d'irrespect par rapport au texte original. Et le résultat étant les traductions d'origine de Jacques Bakhi sur les premières parutions de Lovecraft avec donc des parties entières supprimées, enfin des paragraphes parfois supprimés, des mots changés. Alors évidemment, le sommet dans l'horreur, si j'ose dire, étant la traduction de la quête onirique de Jeannette, plus connue par Bernard Noël dans le recueil Démons et Merveilles, bon, sur lequel on ne s'étendra pas, mais où il y a des choses qui manquent, des mots changés, des sens changés, des contresens innombrables. Voilà. Alors après, il y a eu des petits ajustements au fil des années, mais on a l'impression que c'est depuis peu d'années finalement que des gens, tu citais David Camus, bon, il y a aussi Maxime Lenin, Sonia Kedner, il y a eu François Bon plus récemment, des gens qui sont réattaqués à Lovecraft, chacun avec leur point de vue différent. Le gros, la grande qualité pour moi de travail de David Camus étant que, quoi qu'on puisse discuter sur sa manière de faire, il explique tout ce qu'il fait. Il dit pourquoi il a fait tel et tel choix, et il dit dans quel état d'esprit il s'est mis pour traduire Lovecraft. Ce qui fait que si on veut discuter avec lui, on a les moyens. Ce n'est pas un donné qu'on a qu'à accepter ou refuser. Donc voilà, moi je considère que dans une discussion justement qu'on avait eue avec David autour de la traduction, est apparue cette citation de Joseph Bucky, comme quoi les citations, les traductions, il faut les refaire tous les 20 ou 25 ans. Donc peut-être qu'il y aura des nouveaux travaux à faire, parce que forcément, il y a de l'actualisation à faire par rapport à la langue courante. Même si on veut garder l'esprit original du texte, il faut lui garder une certaine actualité dans cette traduction. Donc j'ai envie de dire que tout ça, c'est une histoire en devenir.
Je crois qu'il ne faut pas être trop dur avec les premiers traducteurs, parce que je pense que c'est seul coup à François Truchot, bon, qui s'est mis d'un seul coup à tout traduire Harwell, bon, qui est un contemporain de Lovecraft que tout le monde connaît, Howard, le grand créateur de l'heroic fantasy avec Conan, etc. Oui, c'est malheureusement parce qu'il a écrit mieux. Mais Howard était un ami très proche, très très proche de Lovecraft. Il a eu un chagrin fou quand il a appris son suicide. Ce que je veux dire par là, c'est que Truchot a fait des erreurs invraisemblables de traduction pour certains textes de Howard, mais d'un autre côté, il a réussi tout de même à communiquer une sorte d'enthousiasme par rapport à des nouvelles générations. Et, bon, je me sais aujourd'hui qu'il y a un renouveau Lovecraftien, mais il n'est pas français, il est général. Et il y a aussi deux nouvelles générations en Angleterre et aux États-Unis qui redécouvrent, et je pense pas que là qu'on puisse parler de traduction. Donc il n'y a pas que ça. Et je pense d'une certaine façon, personnellement, je ne vois pas trop de différence entre les montagnes hallucinées par Camus, pardon. Les deux sont remarquables. Et j'exhorte de toute façon le public à peut-être essayer de lire les deux pour faire des différences. Je n'en vois pas, mais ce qui me fait plaisir personnellement, c'est de voir qu'on va, ayant des exemples autour de moi, il y a par exemple sur Gardin, sur Démons énervés, pardon, il n'y a plus cette traduction aujourd'hui, sur, bon c'est ça, elle est toujours en vente, oui. Bon, Kadat, pour aller vite, Kadat, avec cette nouvelle traduction, pour des gens qui l'avaient lu il y a 30 ans, c'est une redécouverte extraordinaire. Et les gens sont en train de voir le Kadat. Bon, il y avait une certaine forme de condescendance, il faut bien le dire, de la critique vis-à-vis de Kadat. Kadat est un des grands romans de Lovecraft.
C'est un de ceux qui a été traduit rapidement aussi. Enfin, il a été apprécié d'emblée par les sorelles.
Absolument.
Ben non, oui, je veux dire, de toute façon, comme disait Christophe aussi, je crois que c'est un problème général. Au moment où il y a eu ses premières traductions, ça concerne tous les romans de la série noire, par exemple. Hein. Jean-Marc Ramette ont été très très mal traduits aussi, caviardés dans tous les sens. Effectivement, je crois qu'il faut rendre hommage à ses premiers pionniers de la traduction, mais effectivement, il faut aussi évoluer et corriger les choses qui peuvent l'être. Moi, je trouve aussi que la traduction de Camus est formidable, peut-être plus proche de l'esprit de Lovecraftien que celle de François Bon, qui est un peu plus.
Oui, puis même sur le, en général, sur la traduction, c'est ce
l'as dit aussi, il y a le fait qu'il y ait eu une première traduction et qui est malgré tout moteur de rêve pour ceux qui l'ont lu. Même si aujourd'hui je trouve ça, il y a plein de choses que je trouve abominables, mais en fait j'ai tout lu, c'était que Papy, je crois à peu près. Donc voilà, j'ai découvert comme ça et ça m'a empêché
de lire. Papy, c'est dans le nom d'un séquence d'ailleurs, c'est dans ce grand cancer.
Ça trop bien que je le dise, du coup. Dans toutes les nouvelles traductions, après, quelle que soit la bataille de Chapelle, quelque part, moi j'en ai pas grand chose à faire parce que. On est déjà à une deuxième version, deuxième, troisième, quatrième version de traduction, finalement. Et c'est beau, ça se fait avec toujours plus de conscience de ce que peut représenter Lovecraft et de ce que représentent les traducteurs précédents. Et il y a toujours le problème de traduction, elle a aussi fait un repas de tous les 10 ans, parce que le français change aussi. Et que la perception de la traduction d'une langue dans la langue. Dans la nouvelle langue courante, qui elle-même change, fait que 10 ans après, ça ne passe plus. Ça vient des choses qui sont datées aussi dans l'approche, que ce soit des années 60 et des années 70, qui font que ça ne passe plus non plus. Donc, c'est quelque part, c'est pas si important que ça. Ce qui est par contre très important, c'est le sérieux avec lequel c'est fait. Et avec et moi, j'essaie donc de garder aussi dans ma tête que tout ce que l'on vient de dire aujourd'hui, par exemple, c'est avec une amplitude de 70 ans sur les équipes climatiques qui. Comment un type n'a pu être perçu quand c'est sorti à l'époque, tu veux que c'est sorti, mais c'est-à-dire avec être américain dans les années, à la fin des années 20, de lire du Lovecraft, ça peut être surréaliste par rapport à tout ce qu'on a dit. Nous, on essaie de mettre, on met des guillemets partout, on en ressort plein de réflexions, il y a 70 ans, il y a 80 ans de réflexions là-dessus. Et c'est un peu le même décalage qu'il peut y avoir entre. J'ai pas parlé de Jules Verne aujourd'hui et de se dire à l'époque de Jules Verne, quand ça a été écrit, finalement ça correspondra aujourd'hui à de l'anticipation pour beaucoup d'êtres. C'est un élément technologique qui peut venir pousser une histoire mais très très contemporaine. Et son monde est très contemporain, donc on est plus dans l'anticipation que dans la fiction. Aujourd'hui, ça nous paraît encore plus fictionnel parce qu'il y a cette sorte de décalage qui fait qu'aujourd'hui on s'habille plus au travers du steampunk qu'au travers de ce que c'était à l'époque. Voilà, et tous ces décalages-là sont les décalages d'époque. Donc, l'histoire de la traduction, c'est pas ce qu'elle est.
Un jour qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, il faut se souvenir aussi que quand les premières éditions de Lovecraft sont traduites en français, Lovecraft est quelqu'un dont on ne sait quasiment rien. Les premiers essais biographiques qu'il y a sur lui sont des espèces de panégyriques un petit peu délirants du Jacques Vergier, qui invente une partie de sa vie. Et qui a fantasme un petit peu, je dirais. Et à cette époque, aucun élément de correspondance n'a été traduit. Je ne parle même pas de français. Je parle juste des traductions, une traduction en anglais. Le craft, c'est quelqu'un qu'on ignore complètement. Donc après, les caractéristiques de sa pensée, de sa fascination pour les sciences et les aspirationnels, sa lecture de Nietzsche, son rejet de la religion, son racisme éventuellement, enfin tout un tas d'éléments qui peuvent influencer, qui ont effectivement influencé sa fiction. Et dont un traducteur devrait tenir compte, n'était pas disponible.
Je m'aperçois qu'il y a un gros. Il y a un gros point commun entre les trois figures qui me semblent canoniques, c'est-à-dire Jules Verne, Poe et Lovecraft. Voilà une généalogie très simple. Et ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'en 1864, Jules Verne publie Voyage au centre de la Terre. Immédiatement, les Américains traduisent, je ne sais pas le terme adéquat, pompe, je ne sais même pas quel terme utiliser, c'est une des traductions les plus invraisemblables de toute l'histoire de la littérature. C'est effroyable, qui change même jusqu'au nom des protagonistes. C'est affreux quand on lit ça. Et pourtant, immédiatement, Jules Verne a été connu grâce à ce roman, et ce roman, moi qui ai travaillé une bonne partie de ma vie, sur le thème du monde perdu, grâce à ce roman, curieusement, aux États-Unis, et ensuite ça va déferler dans les pays anglo-saxons, eh bien, le thème du monde perdu va être populaire, et notamment le thème de la Terre creuse. Vous voyez tout de suite la généalogie, la Terre creuse de Verne, qui passe également par Jules Verne, par Poe, excusez-moi, Poe était absolument aussi lui aussi fasciné par le thème de la Terre creuse. Il a assisté lui-même à plusieurs conférences de Sims, qui était le pionnier un peu déjanté de la Terre creuse. Et on retrouve évidemment, moi ce que j'aime chez Lovecraft, c'est de dire ces petites formations professionnelles, ce qu'on appelle les romans exploratoires, bon, ils sont toujours dans des univers verticaux, une verticalité menaçante et aliénante. Et faut bien avouer que, notamment dans le recueil de traduit par Camus, on trouve, à mon avis, ce qu'il y a de tout à fait de plus fort, en tout cas, dans cette poésie lovecraftienne.
Si je peux me permettre une petite chose, il y a quelque chose qui me paraît très original chez Lovecraft, c'est ce jeu sur la représentation et ce glissement de la représentation sous toutes ses formes, vers de la trace, du fossile, par exemple, dans les thèmes hallucinés, ensuite à la représentation scripturale ou forme de fresque, par exemple, dans tout le monde des montagnes hallucinées, et puis à un moment donné vient la réalité, en quelque sorte, on est dans le réel, parce que sans c'est bien, c'est-à-dire qu'on est une incarnation de ces choses qui n'étaient qu'en représentation. Finalement, la question, l'une des grandes questions de l'écriture de Lovecraft, c'est lui qui fait, à certains égards, contrairement au modernisme, justement, fait confiance avec le film, voilà, et donc Denis Méliès, c'est bien connu par de l'écriture hyperbolique de Lovecraft, justement, c'est effectivement l'une de ses grandes forces, je pense, l'hyperbolisme. Et donc, je pense que c'est ça, c'est une des grandes forces de Lovecraft, de s'interroger sur les limites même de l'écriture, d'où sa dimension profondément réflexive. Donc, souvent, merci.
Je vous avais dit qu'on pouvait y passer deux heures.
J'ai encore plein de questions, mais il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos quatre spécialistes? Je vous apporte un micro, bougez pas.
Bien que j'aime bien, j'ai lu du Lovecraft, mais j'ai été un peu horrifiée quand j'ai appris que le racisme de Lovecraft, particulièrement sur les Indiens, les Noirs et les Juifs, ça me gêne un peu. Mais pourtant, j'aime bien lire, alors qu'est-ce qu'il faut que j'en pense? Est-ce qu'il faut le rejeter ou bien continuer à se délecter, même si on sait que c'est comme pour Céline, quoi?
Voilà une question intéressante, parce que... Alors...
Ça reste qu'on en prenait un peu loin.
Ouais, mais alors, évidemment, on aurait pu quasiment faire la conférence là-dessus. Qui veut répondre très rapidement sur le racisme chez Lovecraft?
Poe était aussi raciste que Lovecraft, et c'était le plus grand écrivain américain.
Non, mais c'est, disons que c'est, d'une part, c'est dans l'air du temps, quand même, la xénophobie et le racisme aux États-Unis dans les années 20, il n'y a pas que Lovecraft. Comme je disais, Lovecraft était à la fois. Disons que c'est quelqu'un qui est un ethnocentrisme culturel. Hein, c'est-à-dire, ce qui compte pour lui, c'est qu'il y a une certaine forme de, comment dire, de pureté, entre guillemets, de la race, pas forcément au sens racial du terme, culturel déjà, et que donc, à partir du moment où il y a des mouvements d'immigration incessants, ça peut perturber, ça peut créer un désordre. Et après, il fantasme à partir de ça, effectivement, et ça devient parfois des délires qu'on peut considérer comme des délires xénophobes, antisémites, où les immigrés sont associés. On a parlé récemment des yézidis, hein, dont vous vous souvenez, hein, qui ont été massacrés par l'État islamique. Et la secte des yézidis est présente dans un texte de Lovecraft, et est présentée comme une secte luciférienne, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, c'est un matériau pour l'imaginaire. Bon, par moments, ça déborde un peu, mais c'est pas parce que Lovecraft peut avoir effectivement des relents, entre guillemets, antisémites, encore une fois, qui sont très relatifs, qu'il faut éviter de lire. Et puis, sur le plan politique, on l'a aussi accusé, évidemment, d'être pro-Hitler. Au départ, il a été effectivement admirateur d'Hitler, mais il a très vite compris que Hitler, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Il a été admirateur de Mussolini, etc. Puis, il a terminé en étant, finalement, partisan du New Deal. Donc il y a une évolution idéologique qui se traduit d'ailleurs aussi dans ces textes, puisque dans les montagnes hallucinées, les entités supérieures, bien qu'étant entre guillemets monstrueuses, hybridations biologiques, etc., et il dit, c'est très connu cette phrase, malgré tout, malgré ce que c'était des sports, etc., but they were men, hein, c'était des hommes. Autrement dit, il reconnaît la part d'altérité qu'il y a dans l'individu, qu'il y a dans le sujet. Voilà. C'est une manière de répondre à la fois par rapport à l'homme, entre guillemets, et par rapport à son œuvre. Je crois que l'apanage des grands écrivains, c'est justement de pouvoir quand même relativiser un petit peu leurs idées et de l'exprimer de manière beaucoup plus nuancée dans leurs œuvres. Après, il y a des textes, effectivement, de Lovecraft, comme La rue, par exemple, qui sont des textes effectivement éminemment contestables sur un plan idéologique. Mais bon, voilà.
Ça tombe bien, c'est pas passionnant à lire non plus.
Non, exactement, c'est pas un des meilleurs textes. Voilà, mais bon, si vous voulez, il faut essayer de relativiser, comme le disait Laurie tout à l'heure, ne pas oublier que c'est entre 1900 et 1920 et que l'Amérique est profondément, à certains égards, raciste à ce moment-là aussi.
Petit commentaire, enfin deux petits commentaires très rapides. Le premier, c'est que moi-même, j'ai été très étonné et choqué de découvrir ce que c'était écrit par lettre Flaubert et George Sand au moment de la chute de la Commune de Paris et des massacres de la Semaine Sanglante. Voilà, ça ne les fait pas considérer comme des mauvais écrivains pour autant. Et d'autre part, qu'effectivement, dans cette Amérique raciste où la division noir-blanc est un critère fondamental, Lovecraft est ce qu'on appellerait dans d'autres pays un petit blanc, dans le sud des États-Unis, un petit blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu, dans la famille a connu une position favorisée et qui a connu une décadence, une chute, une perte de richesse, en fait une chute de position suite essentiellement au décès de son grand-père hein, qui faisait marcher toute la famille. Lovecraft, c'est quelqu'un qui n'a plus comme richesse. Mis à part évidemment tout son aspect intellectuel, mais pour lequel il n'est pas très, très sûr de lui, mais il n'a plus comme richesse que sa peau blanche. Et donc, il ne comprend pas pourquoi cette chose qu'il possède ne lui permet pas d'accéder à une position un petit peu meilleure que celle qu'il a, et qui est quand même une certaine pauvreté. Et je crois que ça explique pas mal de choses aussi. Alors après, voilà, chacun peut juger effectivement. Ah, mais non, il était grand, le Thaïs, oui. Il y a eu des moments où il était maigre, il y a eu des moments où il était beaucoup plus dodu sur les bases de sa vie, mais
son mariage.
Il a été élevé pendant son mariage que Sonia lui faisait très bien la cuisine et qu'il s'était très bien emplumé. Et bon, après, ça a un peu dégénéré. Mais effectivement, après, voilà, comme on disait, ce qui est important, c'est de savoir où se trouve le racisme dans son œuvre. On peut en déceler des traces, mais il y a aussi des choses, des fois, qui sont contradictoires. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cette scène où il y a tous ces Italiens, dans celui qui entend les ténèbres, ces Italiens qui affrontent une divinité démoniaque qui est cachée dans un clocher d'église en ruine et qui vit à la faveur de l'obscurité. Et la seule arme qu'ils ont, sont des bougies, dans le vent et sous la pluie. Lovecraft détestait les Italiens et il manquait jamais de leur attribuer des sobriquets xénophobes tout à fait détestables. Et donc, malgré ça, il trouve le moyen de présenter une foule d'Italiens, dévots catholiques, comme des gens d'un courage inouï. Voilà.
Juste est-ce qu'on a une question ?
Oui, une petite question.
Est-ce que quelqu'un a encore une question ?
La correspondance, bon d'abord, il faut savoir ces 35 000 lettres, donc même plus que ça, mais enfin disons, maintenant on en est, oui, enfin, en tout cas 35 000 répertoriés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore là. Voilà. Et il y a 5 volumes de correspondance publiées en anglais et un seul volume, autant que je sache, en français, on en a arrêté en cours de route. La correspondance révèle beaucoup de choses. D'une part, qu'il écrivait, qu'il avait beaucoup de correspondants qu'il n'a parfois pas rencontrés. Ils sont devenus des amis très proches, même si, comme Robert Howard, par exemple, Clark Ashton Smith. La correspondance montre aussi qu'il avait des types de correspondants très différents. Et parfois, il écrivait des notes très courtes et parfois des dizaines de pages de lettres. Et qu'il correspondait en particulier avec des apprentis écrivains qu'il aidait en quelque sorte à développer un talent d'écriture et pour lesquels il était une sorte de ce qu'on appelle un nègre littéraire, hein, c'est un ghostwriter. Bon, voilà. L'autre élément, c'est-à-dire ça nous apprend énormément de choses justement sur son américanité, c'est-à-dire son rapport à la civilisation américaine, à la culture américaine, à la science. De manière générale, il y a beaucoup de considérations sur, par exemple, les théories einsteiniennes, la relativité, etc. La quatrième, plein de choses comme ça. Et puis peut-être une dernière chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est quand même intéressante. Vous parlez de jeux littéraires à l'instant. Il y a des jeux littéraires, effectivement, sont beaucoup plus évidents dans la correspondance que dans les textes. Mais par exemple, dans The Hunter of the Dark, le personnage s'appelle Robert Bloch. En fait, c'est une manière de se moquer de Robert Bloch et de le faire périr au pied d'une entité venue de l'hyperespace. Donc, ils s'amusent entre eux à s'emprunter des divinités, à se moquer, etc. Et donc, il y a aussi un texte qui s'appelle Prisonnier des pharaons, qui est en fait un texte réécrit pour le magicien Houdini, où il se moque un peu gentiment de Houdini. Il y a d'autres textes qui ont été écrits pour des revues un petit peu comiques, en fait, un petit peu satiriques. Voilà. Donc, Lovecraft n'était pas dénué d'humour, à la fois dans sa vie privée, dans sa correspondance, et même parfois dans ses textes.
Et bon, on va s'arrêter là. Merci à Lovecraft intervenant. Vous pouvez la retrouver tout de suite en dédicace, et puis une nouvelle table ronde arrive. Merci à tous.